sur Europe 1.
Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Europe 1, je suis très heureux de vous retrouver en ce mardi 7 mai pour écouter vos histoires, ce que vous vivez au quotidien et avec moi, ma charmante camarade Ombline, comme tous les jours. Comment allez-vous ma chère ?
Ça va bien, bonjour Olivier, bonjour à tous.
Jusqu'à 16h et en direct nous partageons vos expériences de vie car votre vécu nous intéresse. Alors on parle souvent de l'informaticien devenu éleveur ou du cadre parisien parti ouvrir sa ferme, mais beaucoup moins de l'agriculteur devenu agent immobilier ou professeur de musique. Et pour cause, être agriculteur, c'est souvent un projet de vie, le fruit d'une transmission familiale, un rapport à la terre très ancré et une vocation réelle. Mais lorsque l'on travaille 12 heures par jour, voire même plus, et que l'on n'arrive pas à joindre les deux bouts financièrement, difficile de rester paysan. Chaque année, 10 000 agriculteurs abandonnent avant l'âge de la retraite et ce changement est souvent tabou. Quelle vie après l'agriculture ? C'est le thème du documentaire « Après l'agriculture » écrit et réalisé par Ghislaine Buffard qui sera diffusé ce soir sur France 5 à 20h50 dans le cadre du Monde en Face.
Arrêter l'agriculture, pour moi, ça m'a pris au moins deux années à me dire est-ce que je fais le pas ? Qu'est-ce que je peux faire d'autre ? Donc, sur la ferme, il y a eu 3 générations. Moi, j'étais la 3e. Le fait d'être la 3e génération et de se dire bah, « je vais arrêter cette chaîne », on se dit « non, il ne faut pas casser ça ». Mais c'est vrai que le jour où on se dit « c'est terminé, je fais autre chose », l'énergie revient assez vite et rapidement.
La reconversion des agriculteurs est tabou, c'est notre sujet d'aujourd'hui sur Europe 1. Nous attendons vos témoignages, nous attendons vos histoires, nous sommes là pour vous écouter.
Et comme chaque jour, on vous attend au standard d'Europe 1 précisément, le 39-21, 50 centimes la minute. Vous n'hésitez pas si vous préférez nous écrire, Twitter, hashtag Europe 1 ou via le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1.
15h, 16h, partageons nos expériences de vie avec Olivier Delacroix sur Europe 1.
Et nous allons accueillir deux personnes pour commencer cette émission, Christophe et Nadège, qui sont mari et femme. Bonjour à vous deux.
Oui, bonjour.
Bonjour. Christophe et Nadège, alors, ce ne sont pas vos vrais prénoms, hein, parce que vous préférez rester dans l'anonymat. Je me tourne d'abord vers vous, Christophe. L'agriculture, pour vous, c'est quoi ? C'est une histoire de famille avant tout ?
Oui. Oui, avant tout, c'est une histoire de famille. On est né dedans, donc on est bercé dedans. Oui, pour moi, avant tout, c'était une histoire de famille. Ouais.
Vous dites, vous dites qu'au début des années 2000, vous vous êtes retrouvé piégé dans ce domaine. Qu'entendez-vous par là ?
Eh bien, piégé, c'est-à-dire que, au début, moi, j'étais avec mes parents. Donc, on était 3 à travailler sur l'exploitation. Donc, les choses se passent plutôt bien, je veux dire. On n'avait pas une surface encore très très importante.
Oui.
Et puis après, mon père est parti en retraite. Et puis après, quelques années plus tard, ma mère. Et je me suis retrouvé tout seul. Mm-hmm. Donc on avait prévu d'embaucher un salarié. Et puis on n'a jamais pu l'embaucher, le salarié, parce que les cours diminuent, les charges augmentent. Et donc on se retrouve piégé quelque part.
Ouais, pour que je me rende bien compte et que nos auditeurs s'en rendent bien compte, vous parlez d'une exploitation de combien d'hectares et dans quel domaine ? Vous étiez dans le lait ?
Non, pas du tout. Donc, exploitation, polyculture, élevage. Donc, c'est naisseur, en fait. Hein,
ouais,
voilà, des petits
d'accord.
Veaux. Et puis, la culture, grande culture, quoi. Voilà, donc 170 hectares au total.
Ouais.
Environ 95 hectares. Et puis, le reste en céréales, quoi. Mmh. 70-80 hectares de céréales.
Ouais, voilà. Mais malgré ces 170 hectares que vous appelez une petite exploitation, vous aviez l'impression de ne jamais avoir de pause dans votre vie et de travailler constamment.
Voilà, c'est ça. En gros, c'est ça, oui.
Combien pour tous ceux qui nous écoutent et qui ignorent combien les agriculteurs peuvent travailler en une journée, vous, c'était une moyenne de combien par jour ?
C'est une moyenne de 10-12 heures. Hein. Ouais. Voilà, après, avec des pointes à 14-15 heures pendant les moissons, les semis, les périodes de vélage, on peut avoir des nuits blanches, hein, c'est sans arrêt. Quoi, voilà, c'est pas tous les jours, mais c'est une moyenne de 10 heures. Hein,
d'accord.
Sans problème. Hein.
Et alors, pour ces 10 heures de travail, est-ce que vous arriviez à vous rémunérer correctement ?
Correctement, non. Moi, vu la surface, étant donné que j'étais tout seul, j'avais un minimum, on va dire.
Oui.
Correctement, non. Non. Si on ramène à l'heure, c'est dérisoire.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire environ 1000 euros par mois.
Mm-hmm. Voilà. Et si on calcule, ça fait combien de l'heure ? Ça fait quoi ? Du 6 euros de l'heure ?
Voilà, c'est ça.
Mm-hmm. Vous avez pris une décision qui va bouleverser votre vie, celle de cesser votre activité à la fin de l'année. Est-ce que votre entourage est au courant que vous avez pris cette décision ou c'est encore un secret ?
Non, mon entourage est au courant. Mmh. Après, ce n'est pas une décision qui est facile à prendre, je dirais. Mais bon, après, quand on en a marre, qu'on n'a plus de plaisir, qu'on y va en marche arrière, bah, à un moment donné, il faut prendre une décision. Quoi. Voilà.
Ouais. Vous y allez, maintenant, vous y allez à marche arrière?
Un petit peu, oui. Voilà, ouais.
Vous sentez...
Surtout que moi, mon cas est peut-être un peu différent de certains, parce que moi, mon épouse étant totalement extérieure à l'exploitation, elle travaille à l'extérieur, elle n'est pas issue d'une famille d'agriculteurs, etc. Ouais. Voilà, moi, j'ai déjà une ouverture, je dirais, entre guillemets, hein. Peut-être, une ouverture un peu plus importante que certaines personnes qui sont vraiment baignées le couple dans l'exploitation, quoi. Voilà.
Ouais. Vous sentez que vous ne pouvez plus faire face là pour prendre cette décision. Au-delà d'y aller en marche arrière, comme vous dites, on sent aussi que la situation est catastrophique.
Ah bah oui, bah situation catastrophique, c'est-à-dire économiquement. Oui, c'est compliqué. Hein. Je veux dire, aujourd'hui, n'importe quel agriculteur ne va pas vous dire bah, « ça va très très bien hein. ».
Ouais, oui, les cours, bien sûr.
Avec les cours mondiaux, etc. Oui, bien sûr, c'est compliqué. Hein. À force de faire 10 heures de travail par jour, on en a un petit peu marre. Mm-hmm. Ouais.
On en reparlera, bien évidemment, dans le reste de cette émission, de ces cours mondiaux hein, et aussi des industriels hein, qui décident du prix du lait, notamment, et puis aussi de tout ce qui concerne les avaries de la nature aussi, hein, puisque vous dépendez aussi beaucoup de la nature. Il y a tout un tas d'éléments qui font que parfois, on n'a pas tout prévu. Comment est-ce que vous vivez cette décision d'arrêter ?
Moi, c'est un soulagement. Moi, je me sens bien. Pour moi, c'est un soulagement. Par contre, c'est vrai que d'un côté, c'est un soulagement. Mais de l'autre côté, c'est un petit peu une appréhension parce que bon, je vais sortir de ma zone de confort entre guillemets.
Oui.
On va aller vers l'inconnu, quoi. Donc il faut être bien dans ses baskets pour le faire. Ouais. Mm-hmm.
On va continuer à parler de vous, de vos projections justement dans cet avenir, Christophe, et puis aussi de celle de Nadège, votre épouse, dans la deuxième partie de cette soirée. Vous restez bien évidemment avec nous.
Europe 1. Tout plaqué, l'exploitation, les animaux, la passion que vous nourrissiez pour l'agriculture, c'est ce que vous avez vécu, c'est ce que vous allez vivre. Vous témoignez sur Europe 1 à 39-21. Vous pouvez aussi nous écrire vos messages via le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1.
Quand il nous a annoncé ça la première fois, c'était surprenant. Donc, c'est son choix, c'est son choix. Et puis voilà, quoi.
Quelqu'un qui peine, c'est aussi bien que continuer et puis de quoi moralement d'être... Après, dépressif ou je ne sais quoi, moi, je trouve qu'il a bien fait.
Parce que plus on persiste, plus on s'enfonce, quelquefois. Donc, c'est pas la peine.
C'est un extrait du documentaire « Après l'agriculture » de Ghislaine Buffard que vous pourrez voir sur France 5 ce soir à 20h50 dans Le Monde en Face. Comment se résoudre à arrêter, non pas un métier, mais ce qui a été toute votre vie? Venez échanger avec nous au 39-21. On parle des agriculteurs qui se reconvertissent. Vous êtes avec Olivier Delacroix.
Un documentaire excellent hein, que je vous recommande particulièrement pour saisir quel est le quotidien de nos agriculteurs en France. Parce qu'on ne saisit pas trop lorsqu'on traverse les allées de nos supermarchés en faisant nos courses. On ne sait pas que, comme Christophe l'évoquait dans la première partie de cette émission, que ces agriculteurs travaillent 10, 12, voire 14 heures par jour pour une somme de 1000 euros par mois. Ce qui revient à dire qu'ils sont payés entre 5 et 6 euros de l'heure. Christophe, aujourd'hui, votre décision est prise. Avez-vous déjà une idée de ce que vous allez faire dans votre vie ?
Oui, j'ai une idée parce que moi déjà quand je me suis installé, enfin à l'âge de 20 ans, je me posais déjà la question à l'époque, est-ce que je fais ça, est-ce que je fais pas ça?
Oui.
Et voilà, et donc comme c'est à cet âge-là, c'est difficile de prendre une décision, je veux pas faire ça, etc. Donc moi j'ai fait ça.
Oui.
Voilà, oui, j'ai une idée de ce que je vais faire. Moi je vais retourner en formation. Pour passer les examens, pour faire chauffeur le taxi, parce que à la campagne, chez nous, on a de la demande dans ce secteur-là.
Voilà. D'accord. Ça ne vous angoisse pas plus que ça, de changer radicalement de vie? Vous n'appréhendez pas cette vie, le taxi, hein, qui est tout à fait autre chose. On parle de vocation dans votre métier. Celle de taxi est un peu une décision forcée. En même temps, vous serez libre dans votre taxi.
Voilà. Ouais. Tout à fait, c'est ça.
Et puis, il y a une demande.
Voilà, et puis les horaires, je veux dire, c'est quand même différent de l'agriculture, quoi. Voilà.
Est-ce que dans cette décision, vous redoutez le regard des autres? Est-ce que vous avez peur que ce soit vu comme un échec ou même comme un abandon?
Alors, peur du regard des autres, non. Mais je me doute, oui. Ouais. On sent bien que certaines personnes, du fait qu'ils savent la décision qu'on a prise, ils n'ont plus le même regard sur nous. Oui, ça se sent bien, je le sens bien.
Et alors ce regard, si vous pouvez me le décrire, il raconte quoi ce regard ?
Ben, il nous évite presque, voilà, il hésite à nous parler, voilà, oui, je pense qu'ils disent, bah oui, c'est un échec, c'est des gens qui n'avaient pas le moral assez solide, je sais pas, voilà, on peut imaginer plein de choses, hein. En tout cas, personnellement, moi, je le vis bien.
Mais c'est voilà. Surtout que c'est une décision qui s'est imposée à vous, j'ai l'impression.
Oui, tout à fait, moi, j'étais pas assez avec mes enfants, j'ai pas vu mes enfants grandir.
Quel âge ils ont ? Combien d'enfants vous avez ? Quel âge ils ont ?
Alors, j'ai deux enfants, un garçon qui a 12 ans, une fille qui a 14 ans.
Oui.
Voilà quoi, j'ai pas été là souvent pour eux, etc. Donc c'est vrai qu'on se réveille un jour, ils ont déjà 14 ans, ils ont quitté le collège, ils vont au lycée, etc. Voilà, donc là ça fait bizarre, on se dit, j'ai quand même
le temps
j'ai
passe.
Loupé des choses quoi.
Ouais.
Voilà.
Vous pouvez me passer Nadège ?
Oui.
Oui.
Alors bonjour Nadège, on écoutait Christophe. Vous aviez l'impression de ne pas avoir de vie de famille jusqu'à maintenant, de ne jamais voir votre conjoint ?
C'est un peu ça, c'est pas l'amour est dans le pré, mais c'est le mari est dans le pré au quotidien.
Ouais, le mari est dans le pré, et lorsque vous l'entendez dire qu'il n'a pas vu ses deux enfants de 12 et 14 ans pousser, ça vous inspire quoi ?
Bah, carrément, hein. C'est-à-dire qu'en tant que femme d'agricultrice, on se retrouve sans arrêt à des manifestations. Quand on emmène nos enfants aux fêtes d'école ou aux manifestations, on a l'impression que les gens pensent qu'on est femme, qu'on est célibataire limite ou divorcée, et en tout cas seule.
Vous êtes soulagée par cette décision de Christophe qui quitte ce métier d'agriculteur et qui va enfin avoir des horaires qui vont lui permettre d'avoir une vraie vie de famille ?
Oh, carrément. Moi, je l'ai rencontré très jeune.
Oui.
Donc, on
à quel âge vous êtes rencontré ?
Il avait 18 ans, moi 16 ans et demi.
D'accord.
Et donc, au départ, c'est la jeunesse insouciante. Après, il y a eu l'installation. Ça allait à peu près, parce que comme il vous a expliqué, c'était familial, c'était sympa.
Ouais.
Et puis ensuite, il y a eu l'arrêt de ses parents, l'agrandissement parce qu'il fallait survivre, la fatigue, le stress, l'injustice, le dégoût, et puis la décision enfin d'arrêter. Et puis du coup, une sorte d'espoir, de sourire, de projet, de revivre. On n'arrête pas de se dire, oh, après on pourra faire ça, etc. Donc,
Mais oui, parce que vous allez surtout pouvoir partir en vacances. Vous allez pouvoir profiter de... Enfin,
oui,
de vos enfants, parce que les enfants ont eux aussi, bien évidemment, besoin de leur père, le modèle du papa qui prend cette décision. C'est une décision courageuse, hein, je le souligne, parce que quitter, même si c'est une solution qui s'impose à vous, vous allez enfin avoir une vraie vie de famille.
Exactement. Et il est vrai que dans le monde agricole, il y a beaucoup de suicides, parce que beaucoup d'agriculteurs n'imaginent même pas qu'ils peuvent arrêter. Hein.
Bien sûr, on parlait de vocation.
Même mon mari, à un moment donné, était presque arrivé à être dépressif tellement il était écœuré de l'injustice, du fait que, en fait, l'agriculteur, c'est un peu comme un arbre qui nourrit plein de parasites. Hein, parce que quand on voit le BE que sa société dégage, on voit qu'il brasse de l'argent. Hein, ça profite, l'agriculture, mais pas à l'agriculteur.
Exactement. Cet argent, il ne va pas dans les poches de l'agriculteur.
Exactement.
Longtemps, vous faites bien d'évoquer cette image-là. Parce que longtemps, on a cru que les agriculteurs étaient des gens et assistés et riches. Sauf que c'est tout le contraire.
En fait, si vous voulez, quand vous voyez moi, je me souviens quand il s'est installé, les cours et les charges étaient un petit peu... ça allait, quoi, à peu près. Il pouvait renouveler son matériel. Donc, il avait des tracteurs tout neufs, à je ne sais pas combien de millions, etc. Et les gens,
les gens
étaient limite jaloux, quoi. Ouais. De se dire, oh là là, vous avez vu, ces agriculteurs, ils ont plein d'argent, etc. Mais en fait, quand vous réfléchissez sur les comptes de la société, le tracteur, il appartient à la banque et puis il a nourri le marchand de matériel, en fait.
Ouais,
dans la bourse de l'agriculteur, il ne reste plus rien. Donc, après, quand il vous disait qu'il faisait 10 heures, moi je le trouvais un petit peu en dessous de la réalité.
Parce
que
plus.
Quand, on, quand on compte les 24 heures sur 24 et les 7 jours sur 7, ouais. Et plus les nuits ou l'hiver, vous avez des amis qui viennent à la maison et qui vous disent mais qu'est-ce qu'il a vieilli? Et là, vous leur répondez mais non, mais c'est parce que tu l'avais jamais vu l'hiver. Mm-hmm. Parce que l'hiver, il prend 10 ans sur son visage.
Mm-hmm. Bon, bah écoutez, dans son taxi, bientôt, vous allez le voir rajeunir, votre Christophe. Je vous souhaite plein de bonheur. Hein, je vous souhaite par avance de belles vacances parce que vous allez sûrement bientôt pouvoir enfin en prendre. Merci beaucoup, Christophe, et merci beaucoup à vous, Nadège, d'avoir pris de votre temps pour nous raconter votre histoire cet après-midi sur l'antenne d'Europe 1. Dans quelques instants, nous accueillerons André Sergent. Il est président de la Chambre régionale d'agriculture de Bretagne.
Europe 1. Des agriculteurs contraints d'arrêter de changer de voie. Vous avez dû franchir le pas. Vous nous racontez votre histoire au 39 21 50 centimes la minute. À tout de suite. Vous êtes avec Olivier Delacroix sur Europe 1, le 39 21 pour nous appeler, nous raconter par quoi vous êtes passé quand vous avez dû quitter votre exploitation, quand vous avez dû arrêter de cultiver votre terre, élever vos animaux. Nous parlons de la reconversion des agriculteurs.
Et nous sommes maintenant avec le président de la Chambre régionale d'agriculture de Bretagne. Il s'appelle André Sergent. Bonjour monsieur, merci d'être avec nous sur l'antenne d'Europe 1 cet après-midi.
Bonjour.
Bonjour, alors on parlait tout à l'heure des difficultés économiques et financières. Sont-elles les premiers motifs de reconversion dans le milieu de l'agriculture ?
Bah, je crois que oui, il faut le reconnaître au travers de différentes crises que subissent l'agriculture depuis maintenant plusieurs années. On voit bien que c'est un élément fondamental pour la prise de décision des reconversions. Ceci étant, on est aussi dans une société qui évolue, où on voit que dans le monde agricole, pas uniquement pour des raisons financières, on voit aussi un certain nombre d'agriculteurs qui aspirent à faire autre chose, arriver à une quarantaine, quoi.
Mmh. Ben justement, interrogé par les Échos, votre confrère Raymond Vial disait que l'existence des agriculteurs devient totalement impossible et que vous encouragez les moins de 50 ans à se lancer dans une nouvelle vie. Comment l'expliquez-vous ?
Alors, maintenant, quand on parle de ce sujet, à l'échelle ou au niveau d'une chambre d'agriculture, il est certes que ce n'est quand même pas la première vocation d'une chambre d'agriculture encourager les agriculteurs à quitter. Mmh. Ceci étant, aujourd'hui, on voit bien qu'un certain nombre d'agriculteurs, et l'exemple est très parlant là tout à l'heure, ben, souhaitent évoluer et faire autre chose. Et à partir de là, il faut considérer que, ben, il faut aussi accompagner les agriculteurs qui souhaitent se reconvertir. Mmh. Et par rapport à ça, le monde agricole, et notamment plus globalement les professions libérales, ben, n'avaient peut-être pas l'accompagnement nécessaire pour faire ces reconversions.
Mmh. On l'entendait d'ailleurs avec Christophe, hein, il va se reconvertir comme taxi, un besoin qui existe dans la région qu'il habite. Donc face à ce problème, le ministère de l'Agriculture a récemment mis en place une aide à la reconversion pour les agriculteurs. Quelles en sont les modalités et sont-ils de plus en plus nombreux à en bénéficier justement ? Est-ce que vous prenez part à cette reconversion ?
Alors, complètement. Et je vais vous citer l'exemple de ce qui a été fait en Bretagne, et plus particulièrement dans le Finistère, où, en lien avec la MSA, hein, qui est un acteur essentiel sur le volet social, en lien avec la région, en lien avec le département et l'État, et la Chambre d'agriculture, on s'est mis tous autour d'une même table pour trouver les moyens de traiter ce sujet de la reconversion. Mmh. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait ? D'abord, sur un volet financier. On a mis en place un système qui puisse donner une allocation financière à un agriculteur qui décide cette reconversion, qui est de 1000 euros par mois. Oui. Et à côté de ça, on accompagne l'agriculteur sur le volet social, voilà, parce que c'est quand même pas évident d'un point de vue psychologique, et le deuxième volet, sur le volet formation. Et c'est comme ça qu'on arrive, entre guillemets, plus facilement à faire qu'un certain nombre d'agriculteurs puissent changer de statut et changer de métier.
Mmh. Ils sont 10 000 chaque année à se reconvertir. Pourtant, lorsqu'on est agriculteur ou agricultrice, ça semble encore tabou. C'est comme si on quittait une famille, un héritage familial ou une identité. Parce qu'on a entendu Christophe aussi parler du regard qu'on posait sur sa décision. Un regard qui n'était pas vraiment positif, qui était plutôt un jugement.
Alors, quand on est agriculteur, on est aussi petit entrepreneur aujourd'hui. Hein. C'est une petite entreprise.
Exactement.
Et donc, il y a bien sûr le volet économique. Mais on a quand même cette particularité quand on est agriculteur. Il y a notamment l'aspect patrimonial. C'est quand même un patrimoine de plusieurs générations auquel on succède. Et donc, le fait d'arrêter, Bah pour nous, c'est un lourd tribut quand même, cette notion patrimoniale. Et on a ce sentiment, sûrement, quelque part, entre guillemets, un peu d'échec. Et je ne crois pas que c'est, lorsqu'on est, par exemple, menuisier ou maçon, il n'y a pas cette notion de patrimoine.
Oui, ça n'est pas le même crève-cœur. C'est souvent un héritage, oui, sur plusieurs générations, comme vous le dites. Vers quel métier ces agriculteurs en reconversion s'orientent-ils ?
Alors, sur l'expérience qu'on avait fait dans le Finistère, on s'est aperçu déjà d'une chose, c'est qu'en fait, quand on est agriculteur, dans notre métier, on touche un peu à tout. On sait, entre guillemets, un peu tout faire. Mm-hmm. Et que de là, lorsqu'on souhaite se reconvertir, lorsqu'on est bien dans sa tête, un agriculteur trouve facilement du travail.
C'est sûrement d'ailleurs, vous soulignez quelque chose de très important, parce que c'est un véritable atout pour leur nouveau métier, puisque dans d'autres corps de métier, ils ont déjà touché à plein de choses, ces agriculteurs.
Complètement. Alors, c'est pour ça que, voilà, on n'est pas là pour encourager les agriculteurs à quitter, mais... Voilà, dans un certain nombre de situations, les agriculteurs qui ont fait ce choix, et d'ailleurs, dans l'exemple, là, tout à l'heure, il a parlé quand même de soulagement, et donc, derrière ça, effectivement, on est agriculteur, on trouve du travail, et ça, je crois que c'est un effet aussi très positif, quand même, pour la reconversion.
Oui, alors, certains quittent aussi l'agriculture par envie, on l'a entendu avec Christophe et Nadège, travail trop difficile, beaucoup d'heures, pas des salaires vraiment minimaux. Pas de vacances, pas d'aide, de vie sociale, de vie de famille. A contrario, on a des histoires de reconversion dans l'agriculture qui ne manquent pas. Sur les écrans de télévision, on voit ces cadres qui, tout à coup, ouvrent leur, créent leur ferme. Comment expliquer ce phénomène inverse ? Parce qu'il est aussi présent, ce phénomène.
Ouais, complètement. C'est pour ça que je parle aussi de ce phénomène de reconversion comme étant un sujet de société. Parce que dans l'autre cas, on voit bien effectivement un certain nombre de personnes qui travaillent dans tel ou tel métier et qui viennent vers l'agriculture à 45 ans, par exemple, et qui sont intéressés et passionnés par l'agriculture. Ouais. Donc, on le vit, en fait, dans les deux sens, finalement.
Mmh. Et à prorata de combien, en fait, quand 10 000 agriculteurs quittent chaque année leur exploitation, à l'inverse, les cadres, en tout cas, tous ceux qui créent, il y en a combien, à peu près, à votre avis ?
J'ai pas de chiffre précis, mais c'est à peu près l'équivalent. Ça va représenter 1 ou 2% quoi, de la population agricole.
D'accord. André Sergent, je rappelle que vous êtes président de la Chambre régionale d'agriculture de Bretagne. Vous restez en ligne avec nous. Dans quelques instants, nous serons avec Odile par nécessité financière. Elle est aujourd'hui contrainte de se reconvertir.
Europe 1. Des agriculteurs qui abandonnent souvent à contre-cœur leur métier, poussés par la spirale de l'endettement. C'est votre histoire. Vous avez été obligé de changer de vie. Vous discutez avec Olivier Delacroix sur Europe 1 au 39-21. Quand cultiver la terre, élever des animaux ont été le moteur de votre vie, comment faire quand il est question de tout arrêter ? Vers quelle profession se tourner ? Vous êtes un ancien agriculteur désormais reconverti. Venez nous raconter au 39-21, le standard d'Europe 1. Vous êtes avec Olivier Delacroix.
Et nous sommes en ligne avec Odile. Bonjour Odile, soyez la bienvenue sur l'antenne d'Europe 1.
Merci, bonjour.
Bonjour. Quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous, Odile ?
Alors, je vous appelle d'Avoise, un tout petit village qui est dans côté de Sablé-sur-Sarthe.
D'accord. Alors,
voilà, j'ai 55 ans.
Vous avez 55 ans. Alors, Odile, avec votre mari, Daniel, vous avez acheté votre ferme dans les années 80. Vous étiez alors titulaire d'un BEP agricole. C'était une histoire de famille, l'agriculture, une évidence pour vous ?
Oui, tout à fait. Oui, c'était une passion, l'un comme l'autre. On avait le souhait de s'installer et voilà, c'était vraiment une passion, quoi.
Alors, en quelques années, les événements difficiles se sont enchaînés. Hein, je crois, de lourds travaux de remise aux normes. La crise du lait qu'on a connue en 2009. Et votre mari, qui a eu un accident de travail. Vous avez vu les dettes arriver petit à petit à ce moment-là ?
Oui, tout à fait. Donc en 2001, nous avons fait nos mises aux normes sur notre exploitation, oui. Donc qui a engendré quand même une trésorerie très très lourde. Et donc après, nous avons subi cette crise de terre en 2009, l'accident de mon époux en 2008. Donc éviter la liquidation de l'exploitation, c'était pas du tout notre choix. C'était de rester agriculteur. Oui. Et donc nous avons fait appel à Solidarité Paysan 60. 12, oui. Qui est une association qui vient en aide aux agriculteurs en difficulté. Et puis nous avons, avec eux, lors de leur accompagnement, on a pu se mettre en plan de redressement, comme on appelle.
Oui, alors justement, durant ce plan de redressement judiciaire, à l'époque, il était hors de question pour vous de quitter l'agriculture.
Non, il était, ouais, tout à fait, c'était inconcevable de quitter ce métier, cette passion. Pour nous, c'était pas du tout envisageable.
Oui, c'est une véritable vocation. Hein.
Ah, tout à fait. Oui, tout à fait. C'était une vocation. On était sur un atelier de lait, donc on a, voilà, les animaux pour nous étaient. Complètement, c'était inenvisageable de se séparer de nos animaux.
Et puis encore une fois, je le rappelle, parce que on n'imagine pas combien le lien qui unit les agriculteurs à leurs bêtes est quelque chose d'extraordinaire lorsqu'on est au contact des agriculteurs, au-delà du travail, hein, de la charge et des heures que vous faites, parce que vous en faites des heures. Il y a un lien avec les animaux qui est d'une... Voilà, qui est vraiment du cœur. Vos vaches, je sais que souvent vous les, vous savez les prénoms de chacune, vous les connaissez, donc c'est quelque chose. Ça a dû être vraiment un véritable arrache-cœur pour vous à l'âge de 56 ans de réfléchir à trouver un nouveau travail.
Mais oui, tout à fait, parce que voilà, mon mari, notre plan, on avait fait notre plan en conséquence de la retraite de mon époux, et je ne pouvais pas garder mon exploitation. En plus, ça, moi, j'ai eu aussi un accident qui m'a engendré quand même beaucoup de soucis. On a dû se résigner à transmettre notre exploitation. Bon, on a eu beaucoup de chance d'avoir un jeune qui a repris notre exploitation.
Oui.
Ça a été merveilleux. Quand on voulait, nous, de toute façon, notre choix aussi, c'était d'installer un jeune. On ne voulait pas que ça parte pour l'agrandissement.
Oui.
Donc voilà.
Il est toujours en place, ce jeune.
Oui, tout à fait, oui.
Ça vous permet de savoir que vos bêtes étaient en de bonnes mains. Je suppose que ça vous a allégé un peu.
Oui.
Vers quel corps de métier vous vous êtes tournée, Odile ?
Alors moi, je me suis tournée vers le social.
Oui.
Donc, parce que voilà, je suis maintenant bénévole à Solidarité, vice-présidente de l'association.
Oui.
Et moi, le social, c'est quelque chose qui fait partie de ma vie intégrante. Hein.
Mm-hmm.
Donc j'ai préparé le concours de diplôme d'accompagnement éducatif et social.
Oui.
Donc j'ai réussi mes écrits, mes oraux.
Oui.
Et donc j'intègre la formation au mois de septembre. Là. Donc voilà.
Ça va, vous n'appréhendez pas trop l'agriculture, le métier de la terre va vous manquer au quotidien, vous pensez ?
Bien sûr, voilà, c'est quelque chose que... Mais bon, il faut à un moment donné passer à autre chose. Il faut savoir rebondir, je crois que c'est aussi important.
Tourner la page,
physiquement,
oui.
Voilà, moralement, parce que voilà, c'est important, quoi. Et puis moi, il faut financièrement aussi, quoi, parce que j'ai pas de revenus, hein, étant agricultrice, inscrite au Pôle emploi, mais on n'est pas rémunéré, les agriculteurs.
Ouais, ouais.
Ça
et c'est vrai que
des...
ouais, et ouais. Ça ne fait pas partie des choses qu'on devrait mettre en place pour quand on voit combien d'heures vous travaillez. Que faudrait-il changer, à votre avis, Odile, pour éviter d'arriver à de telles situations comme vous avez vécu ?
Au niveau de l'étude d'installation, il faut vraiment qu'elle soit bien réfléchie.
Oui.
Parce qu'en fait, voilà, il y a des études qui... on fait une étude d'installation, bien sûr. Mais voilà, il faut réfléchir à tous les problèmes qui peuvent survenir sur l'exploitation, les intempéries, parce que voilà, maintenant, on a des aléas climatiques aussi qui sont très importants. Et voilà, les sécheresses à répétition, les normes qu'on nous inculque. Mais il faut surtout bien réfléchir à son installation, ça, c'est hyper important.
Oui.
Et puis, avoir toujours une... on va dire une bouée de sauvetage, parce que voilà, on n'est pas dans de la récolte, on travaille avec du vivant, on travaille avec du matériel. Les réparations matérielles, c'est vrai que c'est très très onéreux. Donc faut pouvoir avoir une petite, un fond de roulement qu'on appelle, quoi,
ouais,
pour pouvoir anticiper tous ces fluctuations de prix, d'aléas climatiques. Enfin voilà, c'est des choses qui est difficile à envisager, mais voilà.
Bien réfléchir en tout cas à ces investissements au début lorsqu'on s'installe, et surtout anticiper, parce que dans ce métier, malgré tout, vous êtes victime aussi de la météo, hein, de tout un tas de choses qui peuvent venir gripper, hein, la bonne continuation de l'entreprise. Donc, comme vous le dites, avoir prévu dès le début une petite bouée de sauvetage, c'est-à-dire un peu plus d'argent peut-être de côté pour prévoir une éventuelle catastrophe. En tout cas, merci beaucoup, Odile, pour votre témoignage cet après-midi sur l'antenne d'Europe 1. Vous serez ce soir d'ailleurs dans le documentaire Après l'agriculture de Ghislaine Buffard, diffusé dans Le Monde en Face à partir de 20h50 sur France 5. Dans quelques instants, nous accueillerons Jean-Claude. Il était agriculteur, il est aujourd'hui agent immobilier.
Et il y a Jean, 62 ans, qui témoigne au 39-21, en tout cas qui nous a appelé pour nous dire qu'on a besoin des agriculteurs qui nous nourrissent. On devrait les encourager et pas les réorienter. Il faut aider les petits et ne pas donner de l'argent aux grosses structures agricoles.
Europe 1.
Comme Odile que vous venez d'entendre au 39-21, vous avez vécu des moments difficiles, vous avez été contraint de vous reconvertir. On vous écoute, vous aussi, au 39-21 sur Europe 1. On parle de la reconversion des agriculteurs. À tout de suite.
Quand je suis à 16h chez moi, dans ma cuisine, à travers la fenêtre, je vois mon ancien associé qui, lui, continue de travailler et va enchaîner sur sa traite des vaches. Donc je me dis, bah oui, effectivement, c'était mon quotidien avant. Donc on apprécie, quoi. Je me dis, ouais, j'apprécie aujourd'hui de me dire, bah voilà, j'ai fait mes heures aujourd'hui. Voilà.
Un extrait du documentaire « Après l'agriculture » diffusé ce soir sur France 5. Dans Le Monde en Face, la reconversion des agriculteurs. C'est votre histoire, Olivier Delacroix. Vous écoute au 39-21.
Et nous accueillons maintenant Jean-Claude. Bonjour Jean-Claude, soyez le bienvenu sur l'antenne d'Europe 1.
Bonjour Olivier.
Bonjour, quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous Jean-Claude?
Alors j'ai 56 ans, j'appelle de Vendée, petite commune à l'Hérault, à côté de Luçon.
D'accord. Alors vous, Jean-Claude, vous avez grandi dans le milieu de l'agriculture puisque votre père avait sa propre exploitation. Que faisiez-vous pour lui lorsque vous étiez enfant ou plus jeune? Est-ce que vous participiez déjà aux travaux de la ferme?
Alors bien sûr, on participait parce que dans les fermes, il y a quelques années, les parents avaient besoin de nous toujours. Je vais vous dire, c'était quasiment presque une contrainte au début parce qu'on a plus envie d'aller faire un petit tour en vélo ou s'amuser avec les copains. Mais bon, il fallait aider à s'occuper des bêtes, couper des choux, enfin tout ça, quoi. Donc,
ouais. On baigne hein, quand on est enfant d'agriculteur. C'est aussi là, en fait, que la vocation naît, je suppose, parce qu'on participe toujours un peu à aider papa ou maman, et puis les bêtes, tout de suite, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la vocation qui se crée à cet âge-là, non ?
On est tellement avec les animaux que oui, on apprend et ça devient une vocation.
Mmh. Est-ce que cette évidence de reprendre l'exploitation familiale, elle vient naturellement?
J'ai envie de dire, je ne l'ai pas vu venir, c'est-à-dire je ne l'ai pas calculé. Je ne l'ai pas calculé, mais je m'y sentais bien. J'avais des projets de faire évoluer les choses.
Oui.
Donc, c'est ce qui m'a donné aussi l'envie de prendre la suite petit à petit, oui.
Mmh. Est-ce que vous arriviez à avoir une vie stable, que ce soit moralement et financièrement?
Au début, oui. Au début, oui. Pourquoi au début, oui? Parce qu'on est jeune. On ne compte pas les heures de travail. On travaille beaucoup. Moi, j'ai fait tous mes bâtiments, donc j'ai fait de la maçonnerie. Comme je dis souvent, je n'ai même pas vu mes enfants grandir.
Oui, comme Christophe.
Les premières, années,
ouais.
Les premières années, c'est quoi? On a envie d'avoir une ferme, on a envie de la faire progresser, on a envie de travailler. Les horaires, même des fois, souvent le dimanche, c'était pas un problème.
Ouais. Et qu'en disait votre femme? Est-ce que vous avez senti à un moment, parce qu'on va voir qu'à partir d'un moment, vous en avez eu ras-le-bol, vous avez eu envie de passer à autre chose, mais est-ce que vous êtes marié? Qu'en disait votre femme de ces heures que vous enchaîniez et même le dimanche?
Oui, je suis marié donc, depuis 1985. Donc, bon, ma femme m'a toujours suivi, elle voyait... elle y croyait aussi, hein. Elle a aussi participé à la ferme.
Oui,
donc on était, j'ai envie de dire, à la timer petit à petit aussi.
Mm-hmm. À partir de quand alors vous en avez eu ras-le-bol et on entendait Christophe dire que maintenant il y allait en marche arrière. Est-ce que c'est la même chose pour vous?
Alors à partir de quand? Il y a un petit moment où on progresse, on a des beaux bâtiments, par contre on a des gros emprunts.
Ouais.
Et à un moment donné, financièrement, on voit le prix qui n'augmente pas. On voit les contrôles. Alors ça, je ne supportais pas ça.
Contrôle d'hygiène.
Contrôle. Oui, c'est-à-dire qu'on nous oblige les normes européennes. Je ne veux pas dire que je suis contre l'Europe, mais les normes européennes. Voilà, on fait un travail qui est déjà fatigant quand on doit tout marquer et que d'un moment à un autre, un contrôleur va venir tout contrôler ce qu'on fait alors que ce monsieur ne connaît rien à l'agriculture.
Ouais.
Ça m'a fatigué, ça, par contre.
Ouais. C'est-à-dire que les normes européennes, en plus, elles ont vu le libre marché du lait, par exemple, hein, on parle du lait, et on a vu le lait venant notamment des pays de l'Est, hein, de l'Allemagne de l'Est, notamment, où il y a des grandes fermes, et tout ça a contribué à la grande crise qu'ont connue les agriculteurs. Ça n'a pas été trop difficile pour vous de vous lancer dans un autre domaine? Est-ce que c'était mal vu quand vous avez pris cette décision?
Quand j'ai quitté la ferme, beaucoup de gens étaient surpris. Alors, mon père, le premier, il en a été malade. Une dépression. Après, mes amis avec qui je travaillais ont été surpris aussi. J'étais passionné. À un moment donné, la passion a fait que moi, j'ai ouvert les yeux, j'ai envie de dire. J'ai ouvert les yeux, ouais. Et puis, voilà. Mais c'est vrai que ça a surpris beaucoup de gens. Et certains me disent, mais non, t'as bien fait de le faire ou t'as eu la chance de le faire. Non, j'ai pas eu la chance. J'ai ouvert les yeux, j'ai foncé.
Et dans quel domaine, voilà. Alors, vous êtes projeté?
Au tout début, je suis parti ouvrier maçon parce que j'avais quelqu'un qui voulait m'embaucher comme maçon.
Ouais.
Sauf qu'un agriculteur n'a pas l'habitude d'avoir un patron. Donc ouais. C'est vrai que les premières années, être maçon, c'était les premières semaines, pardon, c'était bien d'être maçon parce qu'on débauchait à midi le vendredi.
Ouais.
J'ai trouvé un soulagement. J'ai dit ça, c'est la vraie vie. Mais par contre, ce qui revient au galop quand on est patron, c'est de ne pas gérer son emploi du temps. Ça, c'est quelque chose que je ne pouvais pas faire.
Ouais. Et quel souvenir vous gardez maintenant de l'agriculteur? Ça vous arrive d'y penser?
Ça m'arrive d'y penser plus ou moins. Enfin, maintenant, je suis parti dans un autre métier. Donc, j'ai été que 9 mois maçon. Maintenant, je suis parti dans l'immobilier.
Ouais.
Ce qui paraît.
C'est pas la même chose, voilà. Hein. C'est pas la même chose.
C'est complètement différent. Par relation, je me suis retrouvé à faire une formation et on m'a accepté, avec une certaine réticence. Parce qu'un agriculteur qui fait de l'immobilier, c'est pas courant.
Ouais.
Mais voilà, j'ai baissé la tête, j'ai foncé et puis je suis parti dans l'immobilier.
Et alors?
Voilà, non, je pense plus trop je pense plus à la ferme.
Uh-huh.
J'aurais pensé que ça m'aurait gêné plus que ça, mais non, pas maintenant.
On entendait Christophe tout à l'heure évoquer ce que vous racontez là. Hein. Les agriculteurs, vous êtes touche à tout. Mais c'est vrai que dans votre métier d'agent immobilier aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez ramené de votre expérience d'agriculteur? Parce que finalement, vous êtes un agent immobilier qui connaît bien la région, qui connaît bien la terre, qui connaît bien où le soleil se couche, où il se lève, les endroits où il y a plus de vent que d'autres, je ne sais pas. En fait, quelles sont les qualités aujourd'hui que vous avez ramenées de votre ancien métier d'agriculteur?
Je pense que certains me disent que je suis assez terre à terre dans ma façon de parler. En plus, je connais très bien le bâtiment. Je dis aussi des fois, alors j'ai rien contre ceux qui font les écoles du commerce, j'ai une autre façon d'approcher les gens et de leur présenter le projet sans insister en disant les qualités et les défauts, tout naturellement. Mmh. Et je pense que ça, c'est une force que je dois avoir par rapport à d'autres. Mais comme vous avez dit, oui, l'agriculteur on peut s'adapter. Alors que soit en maçonnerie, c'est une chose, mais dans d'autres métiers.
Et puis un agriculteur, comme vous le dites aujourd'hui, en tant qu'agent immobilier, vous parlez sans fioritures. Et ça, pour un acheteur, il n'y a pas plus grande qualité qu'un agent immobilier qui n'essaie pas de vous vendre le paradis. Mille merci Jean-Claude et toutes mes félicitations pour cette reconversion où je sens que vous devez exceller de nous avoir fait partager votre histoire cet après-midi sur l'antenne d'Europe 1. Dans quelques instants, nous accueillerons Marie-Odile. C'est une ex-agricultrice qui aujourd'hui est secrétaire de mairie.
Europe 1. Oui, nous parlons des agriculteurs qui ont dû arrêter leur activité, mettre fin à leur passion, peut-être à ce qui a été un projet de vie. Quelle vie, justement, après l'agriculture, quelle est la vôtre? On vous attend au 3921. Vous étiez agriculteur, vous avez dû cesser votre activité, vous reconvertir. Vous êtes avec Olivier Delacroix sur Europe 1.
Et nous accueillons maintenant Marie-Odile sur l'antenne d'Europe 1. Bonjour Marie-Odile.
Bonjour.
Bonjour. Quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous?
Alors, j'ai 52 ans et j'habite en Saône-et-Loire.
D'accord. Alors vous, Marie-Odile, vous avez été agricultrice. Hein, votre conjoint avait 12 ans de plus que vous.
Voilà.
Et puis un jour, lui, il s'est arrêté. Alors, pour quelle raison s'est-il arrêté? Est-ce que c'est la retraite, tout simplement?
Tout simplement une retraite, donc une retraite à 62 ans, comme souvent les agriculteurs.
D'accord.
Et donc, 12 ans de moins.
12 ans de moins, vous
fallait,
vous êtes retrouvée...
Avec pas de succession, et donc il fallait prendre des décisions, il fallait se poser les bonnes questions, et j'ai prévu une reconversion.
Ça n'a pas été trop dur
sur ma reconversion.
Ça n'a pas été trop dur pour vous, en fait, parce qu'on parle...
Je pense qu'une reconversion, ça se travaille, déjà se travailler sur soi.
Oui.
Après le travail sur soi, eh bien il faut aller. Enfin, moi je suis, j'ai demandé un bilan de compétences,
oui.
Parce qu'on a un organisme de formation en agriculture qui peut nous permettre de faire ces bilans.
Oui.
Moi, ce qui m'a permis de chercher toutes mes compétences, parce que souvent en agriculture, on a l'habitude de dire que on sait faire que ça. Et c'est pas vrai.
Mmh.
On a énormément de compétences, des compétences transversales qui peuvent se mettre dans d'autres milieux professionnels. Hein.
Oui, et bien on l'a entendu à travers le témoignage de Christophe et puis ensuite celui de Jean-Claude. C'est vrai que dans l'agriculture, on est obligé de toucher à tout. Et je pense notamment souvent aux femmes qui tiennent un peu les comptes hein, et qui ont affaire souvent à toute la paperasse dans ce métier et qui n'en manquent pas. Hein, vous confirmez ?
Oui, tout à fait. Et puis, moi, j'étais une agricultrice à part entière, c'est-à-dire que je faisais aussi des travaux de la ferme. Hein.
Oui.
Donc, voilà, je pense qu'au niveau compétences, on sait organiser notre travail, on sait organiser une journée, on sait gérer un budget. Donc, comme vous dites, les paperasses,
ça vous connaît.
Ouais. Ouais,
ouais.
Et puis, tout ce qu'on doit faire aussi. Parce qu'on a beaucoup de réglementations en agriculture,
oui.
Et tout ça, on a quand même encadré, hein, je veux dire, en agriculture, et ce cadre
ça forme à la rigueur, ça forme à devoir savoir que ce monde, et particulièrement la France, hein, et on reçoit tout un tas de papiers, d'organismes qui vous demandent toujours tout un tas de choses. Ce qui vous a formé, hein, Marie-Odile, puisque aujourd'hui, vous êtes devenue secrétaire de mairie. Alors, comment ça se passe ?
Concrètement, donc, après mon bilan de compétences, juste pour dire un petit peu, pour aussi dire aux gens qui nous écoutent que c'est possible, hein.
Oui.
De se reconvertir. Alors c'est un travail, hein, comme je vous ai dit, sur soi, mais c'est possible. Et derrière mon bilan de compétences, j'ai fait une formation de 3 mois dans une mairie.
Oui.
J'avais pris plutôt une grande mairie, c'est une mairie de 5000 habitants.
Oui.
Tout ça parce que moi j'aimais travailler en groupe et je pense que parce que j'étais administrateur dans des OPA, et donc j'avais l'habitude aussi de travailler en groupe, et ce qui fait que pour moi c'était important de regagner un groupe, et suite à ma formation de 3 mois, donc j'étais embauchée à la mairie de Bourbon-Lancy.
Mmh. Est-ce que il vous arrive d'être nostalgique de ces années où vous étiez au milieu de vos champs, de vos bêtes? Est-ce que vous êtes nostalgique parfois de cette époque?
Bien sûr, on peut rester nostalgique, mais de toute manière, quand on dit qu'il faut se reconvertir, c'est pas anodin. Et quelque part, on s'y prépare dans la tête.
Oui.
Et puis, j'ai la chance d'être quand même dans une ville qui est encore rurale.
Oui.
Quand vous êtes à l'accueil, oui. Eh bien des fois, j'ai aussi, je peux aussi conseiller les gens, je peux, ne serait-ce que mes collègues, hein,
oui.
Mes collègues,
oui.
Vous savez, la crise de la Chine, etc. Il y a plein de choses qu'on parle dans les médias, et quelquefois mes collègues viennent vers moi en me disant, et toi, tu en penses quoi?
Mm-hmm.
Et voilà, c'est ces compétences transversales qui sont importantes, et je pense que. Je veux dire, ma collectivité, elle peut compter sur moi dans le sens où j'ai des compétences, où j'ai acquis des choses.
Vous avez surtout la compétence, j'entends à travers ce que vous dites, que vous avez aussi cette compétence que Jean-Claude évoquait aussi. Hein. Il disait, moi, quand je vends des maisons hein, aujourd'hui, je parle sans fioritures. Et j'entends aussi que vous avez ce naturel-là aussi qui a l'air dans votre métier, qui est un métier relationnel aujourd'hui, puisque vous accueillez à la mairie, vous parlez à vos collègues. C'est un avantage de parler sain, de parler naturel, de parler direct, franc.
Tout à fait, tout à fait. Et puis quelque part, je pense que dans notre métier, on sait tenir aussi des dossiers, parce que j'ai pas que l'accueil, j'ai aussi tout ce qui est à civil. Hein.
Oui.
C'est des dossiers à porter, c'est des rencontres.
J'ai envie de vous dire, Marie-Odile, c'est qu'aujourd'hui, on sent, et c'est bien de finir aussi sur cette note d'espoir, parce que c'est vrai que lorsqu'on annonce que 10 000 agriculteurs se reconvertissent chaque année, on pense tout de suite on a une pointe de nostalgie. Et finalement, on a entendu dans cette émission le témoignage d'agriculteurs et d'agricultrices qui, finalement, se réalisent ont préparé cette reconversion et comme plein de personnes le font dans d'autres corps de métier. métier l'ont bien préparé et sont aujourd'hui, même s'ils sont un peu nostalgiques de l'air frais du matin, de la rosée, des bêtes, se reconvertissent avec, je dirais, vraiment un choix déterminé. Et c'est ce qui est vraiment intéressant dans tout ce qu'on a entendu durant cette heure. Merci mille fois, Marie-Odile, pour votre témoignage cet après-midi sur l'antenne d'Europe 1. Merci aussi à Nadège, à Christophe, à Odile. Merci à Jean-Claude pour son histoire. Et puis à M. André Sergent pour ses éclairages. Comment vivre lorsque l'on gagne moins de 1000 euros par mois en travaillant sans relâche? Mais comment accepter aussi de renoncer à une partie de soi, à sa femme et à son héritage, à sa ferme, excusez-moi, à sa femme et oui, à son héritage familial? Bah, ceci dit, quand on fait 10-12 heures par jour, c'est un peu un renoncement de la famille et de sa femme. C'est autant de questions que se posent les agriculteurs qui sont de plus en plus nombreux à se reconvertir. On l'aura vu, 10 000 par an, si vous êtes dans cette situation. Il existe aujourd'hui, on l'a entendu, des aides, un accompagnement personnalisé. N'hésitez pas à contacter la chambre d'agriculture la plus proche de chez vous. Et pour prolonger la réflexion, je vous donne rendez-vous ce soir à 20h50 pour le documentaire de Ghislaine Buffard, Après l'agriculture, qui sera diffusé dans Le Monde en Face sur France 5. Vous pouvez bien évidemment échanger et continuer sur les réseaux sociaux.
Oui, cette émission continue de vivre grâce à vous sur le groupe de l'émission, sur la page Facebook d'Europe 1, Twitter, hashtag Europe 1 et puis Instagram, Olivier Delacroix officiel.
Europe 1.
Demain, nous reviendrons ensemble sur le burn-out maternel dont on parle peu. Quand mettre au monde un enfant est synonyme de dépression et d'épuisement, comment en sortir? Ce sera le thème de demain. Appelez-nous dès maintenant au 3921 pour nous parler de votre histoire. Ma chère Ambline, j'ai été ravie de passer cette heure avec vous.